France Culture. À voix nue. Toute cette semaine, Pascal Werner rencontre Georges-Arthur Goldschmidt. Aujourd'hui, deux rails, un train.
Vous vous en souvenez encore de mémoire, Georges-Arthur Goldschmidt, c'est le 4 mars 1949 que vous avez été naturalisé français. Et vous avez, à ce moment-là, envisagé la possibilité d'un retour en Allemagne. Je voudrais qu'on parle de votre bilinguisme, je voudrais qu'on parle de ce que c'est que votre personnalité complexe, cette personnalité de rescapé du nazisme. Et je voudrais, pour commencer, vous lire un texte qui m'a expliqué à moi peut-être pourquoi vous aviez tant tardé à écrire des récits biographiques. Et ça a trait au refoulement. Vous êtes en Allemagne, dans votre famille. Au moment fixé pour mon retour à Paris en octobre 1949, je fus soudain et de manière inattendue submergée d'un chagrin incoercible, comme si toutes ces années de séparation irréparable m'assaillaient d'un coup. C'était ce qu'on appelle en allemand « Heimweh », le mal du pays. Je m'en jetais sur le gazon, me roulais sur le sol, rattrapé par tout ce que j'avais tenté d'oublier. C'était dans toute la violence ce chagrin d'enfance qui a détruit tant d'internes ou d'orphelins pour toujours. Il me submergea soudain, au point que j'en hurlais de désespoir. 10 ans durant, j'avais réussi à le mettre sous cloche, à me faire croire qu'il ne pourrait pas m'atteindre, et voilà qu'il me coupait la poitrine et me fit à plus de 20 ans sombrer dans une détresse de jeune enfant et verser des torrents de larmes. C'est alors que l'irréparable séparation eut vraiment lieu, 11 ans après. Vous vous souvenez de ce texte ?
Oui, maintenant je me souviens parfaitement bien. Je n'avais jamais envisagé de retourner définitivement en Allemagne, mais je voulais absolument voir si mes exorbitants souvenirs étaient vrais ou pas. Il me fallait absolument vérifier sur place si je me mentais ou si ce qui s'était fixé en moi de façon tellement exacte était vrai. Et j'ai pris le train, on mettait à ce moment-là 24 heures pour aller à Hambourg, et à ma grande stupéfaction, tout était au moindre détail près, exactement tel que ma mémoire l'avait photographié. Et ça, c'était la grande erreur de ma vie. J'aurais jamais dû faire ça. Car comme je l'écris, tout à coup, j'étais vraiment, littéralement submergé par cette détresse incommensurable et effroyable. Parce que pendant 10 ans, de 39 à 49, j'avais réussi. Et cette éducation cinglée que j'ai reçue m'a préservé du Heimweh. J'avais pas le temps. Ça, c'était le miracle absolu. Tous ces châtiments m'ont empêché de mourir, car les enfants meurent de ce chagrin. Et moi, ça existe, les enfants. Moi, j'ai vu des enfants que leurs parents, parce qu'ils avaient de la chance, sont venus reprendre. C'est un pensionnat chic. Mais des enfants qui peuvent mourir d'être séparés. Et moi, je voulais vivre. Et je ne m'étais pas rendu compte que le chagrin était si profond. Pendant 10 ans, j'ai réussi. Chaque fois que mes parents réapparaissaient à l'horizon de mon souvenir, hop, je les repoussais. J'avais développé une technique du mur de Berlin qui était extraordinaire. Vous savez, il y a dans la vie des espèces de réminiscences qui, tout à coup, vous assaillent sans que vous y attendiez. Et moi, j'étais toujours sur mes gardes et j'avais une technique pour les repousser instantanément. Sinon, je n'aurais probablement pas survécu normalement. Et lorsque je suis retourné dans ce lieu où ma sœur, qui était marié à un Arien, puisque ce qu'on appelait les mariages mixtes ne pouvait pas être déportée.
Elle aurait dû l'être en 1945, si elle n'avait pas été protégée.
Elle aurait dû l'être en août 1945, s'il n'y avait pas eu, heureusement, l'armistice. Elle devait être déportée en août 1945. Et elle a donc vécu à peu près normalement. Ma sœur, qui avait 21 ans de plus que moi, était mariée à un philosophe qui était le dernier assistant du grand philosophe Edmund Husserl et qui était devenu, qui est révoqué évidemment, assistant d'un professeur d'origine juive. Et il est devenu comptable chez mon parrain, car j'avais, comme dans les grandes familles protestantes, plusieurs parrains, 4 parrains et une marraine. Et l'un de mes parrains vendait des métaux non ferreux à l'armée hitlérienne. Rendez-vous compte, c'est terrifiant. Hein. Mais il a quand même protégé, c'était la moindre chose, parce que mon père avait risqué sa carrière pour, je ne sais pas, établir une garantie pour ce type-là. Et l'autre a racheté pour rien. Vous savez que les juifs n'avaient pas le droit d'être locataires, n'avaient pas le droit d'être propriétaires, n'avaient pas le droit d'être vagabonds. Hein. Et il se trouvait que ce type a racheté la maison de mes parents pour que mes parents puissent y vivre. Jusqu'en 1942, où ma mère, heureusement, est morte, et mon père a été déporté. Ma mère lui est rentré mort aussi. Et il a donc protégé relativement ma sœur, qui avait 21 ans de plus que moi, et qui était mariée donc avec ce non-arien. C'est arien, pardon, vous voyez, intérieur lapsus. Et je débarque là, dans cette famille préservée, en 1949. Ils avaient des beaux tapis, des beaux meubles. J'ai rien compris. J'arrive dans ce pays qui ne semblait pas être un pays vaincu. Hein. Évidemment, Hambourg était totalement détruit. Tout était détruit partout, sauf là, dans ce petit coin très luxueux, où rien apparemment ne s'était passé. Et je retrouve exactement ma maison d'enfance, y compris le portail du jardin, tout comme je l'avais connu. Ça ne pouvait être que l'effondrement. Et heureusement que ma famille, très sagement, parce qu'ils n'avaient aucune envie de me voir arriver, n'ont pas voulu de moi et m'ont littéralement expulsé. J'ai fait prolonger mon visa et je suis retourné dans mon... Parce que la France était... c'est un des grands paradoxes de l'époque. Le pays vaincu, dans les apparences, c'était la France, qui était un pays à ce moment-là pauvre. Il n'y avait presque pas de réclame lumineuse. Elle se relevait péniblement de la guerre, hein. Et le pays qui profitait, qui avait l'air, ou du moins de profiter de la reconstruction, c'est l'Allemagne. C'était un des grands paradoxes. L'Allemagne était pleine de réclames lumineuses, elle était en train de se relever de ses ruines. Et la France...
On était en 49, en 50.
49. Et la France était encore un pays d'avant-guerre, un pays presque pauvre en comparaison. C'était un paradoxe inouï, et moi je comprenais rien du tout. Mmh. Et là, j'ai compris que je ne devais plus jamais remettre les pieds définitivement dans ce pays qui n'était absolument plus le mien, avec lequel je n'avais rien à voir.
Alors, j'en profite pour citer de nouveau un texte de votre très beau livre, La matière de l'écriture, qui s'appelle Écrire entre deux langues. Parce que vous dites que c'est un pays avec lequel vous n'avez plus rien à voir, mais néanmoins, vous vous êtes rétabli dans la vie grâce au métier de professeur d'allemand. Donc, vous avez enseigné l'allemand. Vous avez traduit l'allemand, vous avez écrit en français et en allemand, et il y a quelque chose qui se passe avec la langue, qui n'est peut-être pas aussi simple que le plus rien à voir. Les timbres de voix, le vent, la maison, le jardin, les chemins ou l'école sont des sédiments de l'être soi. La langue, c'est le train qui passe dans le silence du soir, eau sur roue, sur fond de soleil couchant. Ce sont les barrières blanches et noires du passage à niveau en pleine forêt. La langue, c'est la main du père qui serre plus fort celle de l'enfant au passage d'ombre. La langue maternelle, elle a même un mot pour cela, Rachel. Ce sont les épaisseurs de feuilles mortes que les pas creusent et retournent, brunes, humides. Ce sont les pommes talées qu'on trie sur la claie de bois de la cave. Et la langue, c'est aussi le Struwwelpeter, Pierre, les bourriffés et les contes de Grimm et le Gruseln qui les accompagne, cette peur délicieuse qui creuse le dos quand on vous les lit le soir. La langue, c'est le frottement du tablier de cuir des cochers ou l'odeur de cornes brûlées des chevaux qu'on ferre. Mais la langue, c'est aussi la crainte de l'oncle jaune, comme on dit en allemand, der gelbe Onkel, la baguette de bambou du maître d'école, la plupart du temps un destructeur d'âme. La langue, c'est aussi les Seppelhosen, les culottes courtes en cuir et les rumeurs étranges qu'on surprend par bribes, les peurs entremêlées, celles du châtiment corporel tant pratiqué alors et qui expliquent tant de choses de l'évolution de l'Allemagne de ce temps encore si proche, celles bien pires encore de quelques fautes inconnues, puis celles quotidiennes des uniformes, couleur cacadois, les saluts tonitruants et obligatoires bras tendus, le Heil Hitler, puisqu'il était interdit de dire bonjour, bonsoir, il fallait saluer à l'allemande, comme on disait, der Deutsche Gruß. Alors, il y a cette ambivalence profonde envers la langue maternelle, mais qui dit ambivalence dit attachement profond.
Absolument. Ce texte dont je ne me souvenais pas, qu'en effet, j'avais écrit pour la Villa Gilet, pour les conférences que j'avais fait là-bas, exprime en effet tout à fait ça. Ma langue maternelle, la plus profonde, c'est l'allemand. Mais ma langue maternelle la plus profonde, c'est aussi le français. J'ai vraiment deux langues, pas maternelle, mais ma langue presque de vie, ma langue dans laquelle je voudrais mourir, c'est le français.
Vous rêvez dans quelle langue ?
Je ne rêve pas du tout dans une langue. Je ne me souviens pas jamais de mes rêves et je crois que ça ne parle pas dans mes rêves. De toute façon, je ne peux pas vous dire, il est rarissime que je me souvienne d'un rêve. Et quand je m'en souviens, c'est des images. Mais je n'entends jamais, c'est extrêmement rare que je me souvienne de mes rêves.
Vous n'avez donc pas fait l'épreuve de la psychanalyse ?
Non, pas du tout. Non, je n'ai aucun souvenir de mes rêves. Ce qui serait intéressant pour la psychanalyse d'ailleurs. Mais l'allemand, c'est vraiment comme je le décris, sauf que l'allemand est une langue blessée à mort. C'est une langue dont le nazisme a détruit les structures. Et c'est de l'époque où se mettait en place en quelques mois le fameux LTI, la lingua terti imperii, la langue du Troisième Reich. Il y a un livre traduit en français dans un livre de poche, je crois que c'est aux éditions Payot, du grand linguiste Victor Klemperer, qui est le cousin du célèbre chef d'orchestre. Entre autres, le nazisme a inventé une langue démoniaque qui a à jamais abîmé jusqu'au cœur cette admirable langue douce et belle qu'on a défigurée à jamais. Et c'est ça qui, moi, me poursuit sans arrêt, cette espèce de finis linguae, de fin de la langue.
Il y a guérison quand même.
Il y a peu, car de plus en plus l'allemand reprend sa structure en berlificotée. Vous savez qu'en allemand, vous pouvez faire autant de mots que vous voulez, comme vous voulez, c'est sans limite. Vous pouvez faire de la langue ce que vous voulez. Et il se trouve que cet allemand admirable du XVIIIe siècle, ou l'allemand de Heinrich Heine, ou des grands poètes romantiques, est une langue qui a disparu. Or, le français n'a pas disparu. Le français n'a pas connu cette aventure terrible. Il n'y a jamais eu. Le pétainisme n'a pas eu le temps. Il n'avait peut-être même pas l'intention de s'en prendre à la langue. L'hitlérisme s'en est pris à l'âme de la langue. Mais moi, mon allemand que j'ai appris, quand je l'ai appris, c'était la langue du 19e siècle, telle que je la décris, avec les bruits, l'intimité des bruits, ces espèces les contes de Grimm. Moi, j'ai vécu là-dedans. Ma mère m'en lisait un tous les soirs. Moi, les contes de Grimm les plus effroyables m'ont constitué. Hein. Les bruits, le moyeu, les feuilles, tout ça, c'est l'intimité de ma langue. Mais cette langue-là, elle a disparu. C'est une langue qui a été par les événements politiques épouvantables qui sont produits, une langue qui a été une langue presque assassinée. Elle revit, bien sûr. Il y a encore de grands écrivains, il y a encore des gens généreux qui parlent un allemand magnifique, mais cet allemand-là n'est plus vraiment en usage. C'est ça qui est le grand malheur de cette malheureuse langue. Son problème, c'est que en français, vous dites « orgueil ». Moi, j'ai pas fait de grec, j'ai aucune idée. En allemand, vous dites « Hochmut », l'esprit haut. C'est-à-dire que tout est mis sur la table avec une grande clarté. Vous n'avez pas dans les mots composés, je dis uniquement dans les mots composés, le mystère des mots français, où personne ne comprend ce que ça veut dire. Moi, je donne toujours cet exemple que j'aime beaucoup donner, le pancréas. Moi, j'ai pas fait de grec, bon, ma femme m'a expliqué. En allemand, c'est la glande de la bave du ventre. Die Bauchspeicheldrüse. C'est-à-dire que dès que vous voulez faire des mots composés, tout est clair, tout est plat. Et on a enlevé, la vie moderne a enlevé à l'allemand son mystère. L'allemand est, comme toutes les langues du monde, une langue profondément énigmatique. La langue du XVIIIe siècle, où il y avait encore peu de mots composés, est une langue bouleversante, merveilleuse. Il suffit de... Mais la langue moderne, avec cette faculté, je répète, d'agglutination, c'est un malheur. Hein. Vous agglutinez n'importe quoi, n'importe quoi.
Vous avez écrit d'ailleurs que les mots allemands, c'était les choses elles-mêmes. En français, elles étaient enveloppées d'une sorte de noli me tangere, une sorte de mise à distance.
Absolument. Les mots français ont cette grâce que quiconque n'a pas fait de linguistique ne sait pas ce que ça veut dire. Donc ça leur confère une espèce de noli me tangere, ne me touche pas, c'est pas de distance qui est merveilleuse. Et plus je
vieillis... Et vous ne croyez pas que c'est parce que c'est votre deuxième langue ?
Je ne peux pas vous dire. Moi, je suis de plus en plus, au fur et à mesure que je vieillis, je suis saisi par l'extraordinaire amplitude du français. Le français est à la fois une langue d'une exceptionnelle clarté, d'une exceptionnelle opacité. Il y a toujours un contexte émotif derrière. Il y a une espèce de vibration mystérieuse, un sous-entendu qu'il y a dans tous les mots simples allemands, de la même manière, mais plus dans les compositions verbales. Et le français, grâce au recours perpétuel qu'il fait au grec et au latin, a conservé cette espèce d'aura de le mot trouble, par exemple. Il y a des tas de mots, quiétude, ou bien dérédiction, ou bien des tas de mots comme ça, qui sont des mots tout à fait étonnants, qui une espèce de mystère. Et plus je vieillis, plus je vis dans la comparaison constante de mes deux langues maternelles. J'ai cette chance d'avoir vraiment ces deux langues qui sont des langues d'enfance. N'est-ce pas ? Mes enfants se sont passées, j'ai eu cette chance extraordinaire. J'étais un Spätzünder, un allumeur tardif, comme on dit en allemand. Et à 17 ans, j'étais encore un petit enfant et je pleurais, on me mettait au coin. J'étais un autique, un enfant autique, complètement débile et retardé. Et j'ai eu la chance d'avoir une enfance extrêmement longue et de l'avoir dans deux langues. Et ce qui me permet d'avoir en moi vraiment deux univers linguistiques qui, plus je vieillis, plus je m'aperçois, c'est extraordinaire, n'ont aucun rapport. C'est vraiment deux univers complètement séparés. Et rien n'est aussi intéressant et en même temps mystérieux que de traduire. J'ai traduit dans les deux sens. Je me suis même auto-traduit. Ça marche parfaitement, bien sûr. Toute langue est traduisible, sinon elle ne serait pas une langue. Toute langue est absolument traduisible dans toutes les autres. Mais il y a toujours un reste qui, lui, ne passe pas.
Et c'est ça qui vous intéresse.
Et c'est ça qui, bien sûr. Si vous voulez, il n'y a pas, mais seul le traducteur le sait, de situation plus exaltante que de gigoter au-dessus du vide de la langue d'arrivée. Vous avez ce que vous devez traduire avec une clarté en vous, lumineuse, et il n'y a aucun moyen. Et la langue d'arrivée vous dit, mon petit vieux, tu fais ça sans moi. Et je ne connais rien, j'ai beaucoup traduit,
Nietzsche, Kafka.
Oui, retraduit Nietzsche et retraduit Kafka.
Oui.
J'ai beaucoup traduit Hunt, que j'en ai traduit 23.
Oui.
Et quand la langue vous dit, la langue française ou la langue allemande vous dit, mon petit vieux, tu fais ça sans moi, c'est passionnant. Pourquoi est-ce que la langue vous dit ça? Et c'est toujours les mêmes choses qu'une langue ne peut pas traduire. Mais ce n'est pas une impuissance, c'est une richesse. La richesse des langues commence là où elle s'arrête. Et le bilinguisme, dans la mesure où... Il n'est jamais complet, d'ailleurs. Je ne vis pas ma vie quotidienne en Allemagne. Je suis donc un peu coupé de l'allemand moderne. De même, d'ailleurs, que je suis coupé du français moderne. Souvent, j'entends les jeunes gens, ou même mes fils, ou même mes petits-enfants, dire des choses que je comprends à peine. Soit parce qu'il y a une espèce de néo-français, comme c'est toujours le cas. Les langues évoluent. Mais je ne connais rien de plus passionnant que ces côte à côte des deux langues. Et quand vous entendez l'une là où vous n'entendez pas l'autre.
Vous dites, vous avez une phrase très imagée pour l'exprimer, que vous avez toujours deux rails dans le cerveau et un seul train qui passe.
C'est ça, c'est ça. Oui, je ne savais pas que j'avais dit ça. Oui, absolument. C'est un seul. Et c'est une chose, c'est une chance extraordinaire. Mais plus vous avez cette chance, plus la traduction est difficile. Mais tout se traduit.
Vous avez du mal à traduire Kafka ?
Kafka écrit une langue tellement lumineuse, tellement évidente, tellement adéquate à ce qu'elle veut dire, que c'est paradoxal, mais il n'est pas très difficile de traduire Kafka. Et pourtant, mes traductions du Château
et du procès
chez Press Pocket sont radicalement différentes et exactement pareilles à celles de Bernard Lortolari. Car nous avons fait ça en même temps à l'insu l'un de l'autre, c'était très drôle d'ailleurs. Lortolari a traduit avec souplesse, avec élégance, là où moi j'ai traduit avec exactitude, en respectant rigoureusement le déroulement. Je n'ai jamais relu ma traduction, mais vous prenez 10 traducteurs pour un texte simple, il y aura toujours des différences. Et ça, nous en rejoignons au ce problème
du mystère
de l'être humain. C'est ça qui sauve les langues. C'est que toute traduction est toujours à recommencer.
Quels sont vos rapports avec Kafka ?
Sur Kafka, j'avais jadis fait, ça s'appelait le diplôme d'études supérieures, ça correspond à la maîtrise. J'avais fait l'un des premiers diplômes d'études supérieures, ça s'appelait le problème de l'existence chez Kleist et chez Kafka. Et je suis en train de reprendre Kafka. Kafka est celui qui m'a donné, après Rousseau, vraiment le coup fondamental sur la tête. C'est lui qui m'a donné ce que je cherchais et que je ne trouverai jamais, puisque ça fuit toujours. La vérité dernière, c'est ce qui échappe. C'est ça qui est admirable chez Kafka. L'escalier monte au fur et à mesure que je le monte. Et quand j'ai lu la première phrase du procès en allemand, Jemand musste K verleumdet haben, denn eines Morgens wurde er verhaftet. Quelqu'un devait avoir calomnié Joseph K, car il fut arrêté un beau matin. Je me suis retrouvé, et ça se termine par la honte. C'était comme si la honte devait lui survivre. Là aussi, comme les confessions, j'ai cru que si on avait écrit ça pour moi. Mais Kafka est pour moi le... Je n'aime pas les hiérarchies, mais celui qui est le plus près de ce que j'éprouve et de ce que je ressens. Et surtout, il écrit une langue tellement admirable, une langue d'une justesse inouïe. Et il n'y a pas de problème, c'est comme Nietzsche ou Heine, il n'y a pas de grand problème de traduction, paradoxalement, pour les très grands textes. Ils sont tellement dans la langue humaine. Bien sûr, il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des détails qui ne passeront jamais, mais ce n'est pas très important.
Vous avez dit sur Kafka, je ne sais plus où, que je crois que c'est dans La traversée des fleuves, qu'il avait été pour vous le révélateur de l'identité juive.
Absolument.
Vous aviez reconnu ce qu'on disait sur les juifs, donc vous n'aviez aucune notion, c'est de Kafka que vous l'avez appris.
Absolument. À savoir que je ne suis jamais ce qu'on dit de moi, je suis celui qui échappe à toute définition. Pour moi, ma judéité, c'est non pas le côté rebelle ni rétif, mais c'est en dernier ressort, comme pour tout être humain, le côté incoinçable. Je ne suis pas ce que vous voulez faire de moi. Hein. Je suis... si vous voulez, pour moi, ma judéité, c'est de découvrir, ou plutôt même de savoir d'emblée et d'avance, mon humanité totale, celle de tout le monde, cette espèce d'anonymat pointu, si vous voulez, cette conscience irréductible, c'est ça, voilà, c'est ça, l'irréductibilité. Mais je ne sais rien du judaïsme, je n'ai jamais eu le moindre contact, et pourtant, depuis j'ai découvert assez tardivement le grand penseur Gershom Scholem, que j'ai lu en allemand, je suis allé d'ébahissement en ébahissement, parce que c'est exactement ma pensée, comme si le fait d'être condamné à mort avant de naître vous oblige à un certain mode de pensée. Moi, je suis persuadé de ça. J'ai toujours su, enfant, d'une manière ou d'une autre, par ces espèces de circulations inconscientes qui se font dans les familles, qu'au fond, je ne devrais pas être là, que j'existais de manière illégitime, ajouter à cela tous les problèmes sexuels de l'enfance, d'une époque de répression totale. Et vous êtes au cœur de la condition juive, mais qui est aussi la condition humaine. Hein. Et il n'y a rien d'autre. Hein. D'ailleurs, la persécution, c'est simplement la ressemblance. Ça.
C'était À voix nue. Toute cette semaine, Pascal Werner rencontre Georges-Arthur Goldschmidt. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Marcel Lebras, réalisation Marie-Laure Ciboulet, coordination Sandrine Trainer. Cette émission reste écoutable en ligne pendant une durée de 1000 jours et podcastable pendant un an sur franceculture.fr. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Pascal Werner avec Georges-Arthur Goldschmidt.